Allez, on marche encore une petite heure.
Oui. Ouais, tout le monde, on est prêts.
Allez, où?
Toute sa vie, il n'a eu de cesse de larguer les amarres, autant par goût de l'aventure que poussé par une impérieuse nécessité de rupture. Vivre vite et fort, telle semblait être la devise de Jack London. Il meurt à 40 ans après avoir été tour à tour ouvrier, pilleur d'huîtres, garde-côte, chasseur de phoques, marin en mer froide puis chaude, vagabond sur les rails, chercheur d'or, militant révolutionnaire, reporter de guerre et romancier. Un romancier qui a bouleversé les codes de son époque et qui est aujourd'hui reconnu comme un écrivain majeur. Pour nous emmener sur les pas de Jack London, nous avons un guide de choix. Olivier Weber, écrivain voyageur, grand reporter, ancien correspondant de guerre. Il est lauréat de nombreux prix, dont le fameux prix Albert Londres, s'il vous plaît. Et il signe une biographie de Jack London aux éditions Paulsen, intitulée « Jack London, l'appel du grand tailleur ». Aujourd'hui, Olivier Weber nous raconte la vie aventureuse et incandescente d'un auteur qui a marqué de son empreinte la littérature.
Buck était apte, voilà tout. Il s'accommodait inconsciemment à son nouveau mode de vie. Civilisé, il aurait pu mourir pour une cause morale, par exemple pour défendre les enfants du juge Miller. À présent, sa décivilisation était totale, comme le montrait son aptitude à fuir toute question morale et par là même à sauver sa peau. Bref, il progressait ou régressait rapidement. Ses muscles se firent durs comme du fer et il devint insensible à la douleur ordinaire. Non seulement il apprenait par l'expérience, mais des instincts endormis depuis longtemps se réveillaient en lui. Il se débarrassait de tout l'héritage domestique, se rappelait confusément la jeunesse de sa lignée, le temps où les chiens sauvages couraient en meute à travers la forêt primitive et pourchassaient leurs proies pour les tuer. Aucun effort ne lui était nécessaire pour apprendre à se battre à coups de crocs acérés, vifs comme ceux du loup. C'était ainsi que se battaient ses ancêtres disparus. Il ranimait en lui la vie de jadis. Et quand, dans la nuit froide et immobile, il pointait le nez vers la lune et poussait un long hurlement de loup, c'était ses ancêtres, morts et enterrés, qui hurlaient à travers les siècles et à travers lui.
Extrait de l'appel de la forêt lu par Guillaume Gallienne dans son émission « Ça peut pas faire de mal » sur France Inter. L'appel de la forêt, c'est un des grands succès de Jack London. Que raconte ce roman dans les grandes lignes, Olivier Weber ?
Eh bien, d'abord, c'est l'histoire d'un chien qui est un chien bien éduqué, qui appartient à un juge de Californie, de Santa Clara, dans l'actuelle Silicon Valley, juste à côté, et qui devient migrant en quelque sorte, et un chien dans une meute au fin fond du pays des chercheurs d'or, donc dans le Grand Nord, dans ce que Jack London a appelé le Grand Silence Blanc, dans lequel donc il a vécu. Et ce chien, Buck, devient un petit peu un loup entre les loups. Donc il se déséduque en quelque sorte, et c'est une parabole, au-delà même du livre animalier ou du livre qu'on a lu à l'école, ou enfant en tout cas, c'est une parabole sur la condition humaine. Il faut se symboliser ce chien, Buck, comme étant un homme, et un homme qui devient loup. Et Jack London dit lui-même que l'homme est pire que le loup. Il dit d'ailleurs dans un autre livre que l'homme est le seul animal qui est capable de tuer sa femelle. Il avait donc un jugement assez sévère sur ses congénères. Et donc, on n'est pas du tout, enfin si, on est un petit peu quand même dans le roman animalier, mais d'abord sur une métaphore en fait, sur ce qu'a vécu Jack London et ce qu'il voulait montrer. Il était vraiment épris de philosophie et c'est un livre qu'on peut relire, non seulement à 15 ans, mais bien longtemps après.
Ce que vous nous dites, en fait, Olivier Weber, c'est qu'il y a un malentendu sur ce romancier qu'on a trop souvent catalogué comme voilà, un romancier de roman d'aventure pour la jeunesse. C'est bien plus que ça.
C'est bien plus que ça, absolument. Il a un décorum qui s'appelle l'aventure, qui peut être le pays des chercheurs d'or, qui peut être la mer, parce qu'il était marin très tôt. La même été, tenez-vous bien, pilleur d'huîtres dans la baie de San Francisco. La baie de San Francisco, vous pouvez encore y naviguer aujourd'hui, c'est dangereux. C'est Jack London qui disait lui-même, quand on a appris à naviguer sur cette mer intérieure, qui est la Bay Area, donc la baie entre Oakland, Berkeley et San Francisco, et bien après, on peut être marin et franchir la fameuse Golden Gate, la porte dorée qui n'avait pas encore de bridge, de pont à l'époque. Et donc, il devient pilleur d'huîtres et ensuite gendarme. Contre les pilleurs d'huîtres, donc contre ses petits copains un an après, donc à l'âge de 16 ans, parce que les flics l'avaient repéré, on disait tiens, d'ailleurs le chef des gardes-côtes s'appelait Charlie Le Grand, il avait un nom français, Le Grand, tu es un bon marin, tu vas venir travailler pour nous. Et Jack London ne pouvait pas séparer grosso modo ses vies multiples que vous avez évoquées tout à l'heure, là en préambule, donc chercheur d'or, aventurier, reporter de guerre aussi, de sa volonté depuis l'enfance d'être écrivain. Et c'est là où il y a un vrai malentendu, vous avez raison, mais que lui-même a entretenu. Et je crois que La tâche du biographe, mais pour moi c'était plus qu'une biographie, c'était voilà presque un récit romancé tellement ouais. Je rêvais d'écrire sur Jack London depuis mon enfance.
Et c'est-à-dire que vous-même vous êtes parti très jeune, hein, vous aviez fait des études d'anthropologie, d'économie et votre premier grand voyage c'est aux États-Unis avec en tête. Oui, Jack London, c'est oui, une longue absolument. Histoire d'amour.
C'est une longue histoire, mais bon, en fait, moi, je suis un peu sur Terre aussi, et j'écris pour cela, pour transmettre. Et Jack London, je pense aussi, voulait transmettre. Et si on peut aider les jeunes, comme nos grands frères, nos maîtres en littérature nous ont aidés, qui sont des enseignants, qui sont des profs aussi, quelque part, eh bien, la tâche sera rendue. Et oui, moi, j'ai eu la malchance aussi de commencer très jeune, un peu moins jeune que Jack London. Mmh. J'étais berger en Haute-Montagne à 15 ans, et puis bon, j'ai rencontré une femme, s'appelle Marianne, la République française, qui m'a donné beaucoup de bourses, et j'ai pu finir mes études ensuite, après un doctorat, à San Francisco. Alors, pas un hasard. J'étais en même temps pour finir mon doctorat correspondant de la presse française là-bas. Et évidemment, c'était pas tout à fait un hasard parce que c'est le pays de Jack London. Et Jack London, là encore, entretient une sorte de malentendu. Pourquoi ? Parce que c'est l'écrivain du grand tailleur, effectivement. Call of the Wild, l'appel du sauvage, il est tout le temps parti, mais il est tout le temps revenu. Il est revenu où ? Au bercail, pratiquement à San Francisco, où il a fini ses jours à Glen Ellen dans ce fameux ranch modèle écologique avant l'heure, où il meurt, vous l'avez dit, à 40 ans. Et donc, il revenait dans les terroirs. C'était en même temps un écrivain profondément ancré dans la terre d'Amérique, même s'il détestait quelque part une certaine Amérique, parce que c'était le mauvais fils de l'Amérique, dans lequel quand même les Américains se reconnaissaient après la définition de la dernière frontière qui était la conquête de l'Ouest. Mais c'était quelque part le voyou qui avait bien réussi. Il avait quelques dents en moins parce qu'il cassait souvent la figure des autres dans la rue ou à l'école.
Bagarreur, ouais.
Mais voilà, le grand malentendu vient de là, effectivement.
Alors, grand malentendu, il a quand même été repéré par de nombreuses personnalités, et pas des moindres. Hein. Vous le dites, d'ailleurs, vous terminez votre biographie comme ça en parlant de Lénine qui, sur son lit de mort, avoue sa passion pour cet intellectuel autodidacte, Trotsky qui le dévore durant son exil au Mexique, Jack Kerouac qui part sur ses traces,
toute la Beat Generation, c'est
Joseph Kessel qui le vénère, Ella Maillard, Nicolas Bouvier qui rêve de ses aventures, et ça va jusqu'à Camus, Sartre, Malraux qui l'encense pour son imagination. Ses lettres de noblesse, il les a quand même acquises.
Oui, il les a acquises de son vivant. Et après, c'était à sa mort, donc en 1916, il y a à peu près 101 ans, il était l'auteur non seulement américain, mais l'auteur du monde entier, le plus lu au monde. Il a vendu ensuite des millions d'exemplaires, jusqu'à 6 millions pour L'Appel de la Forêt. En fait, qui est mal traduit dans le titre, c'est Call of the Wild, c'est plutôt L'Appel du Sauvage, ou L'Appel Sauvage. C'était retraduit ensuite par d'autres éditeurs avec ces titres-là. Mais donc, oui, reconnu, et en même temps, il en a bavé. Il en a bavé, pourquoi ? Parce que d'abord, il a travaillé. Très jeune, 11 ans, absolument. Il était ouvrier, il était manœuvre, il était aide-manœuvre de manœuvre, quelquefois aussi, il gagnait $1 par jour, mais en travaillant jusqu'à 13 heures par jour, donc $30 par mois. Rendez-vous compte, quelques années plus tard, après avoir essuyé des centaines de refus, d'ailleurs c'est assez drôle, dans sa chambre d'Auckland, il avait affiché sur une corde avec des pinces à linge les 200 refus de la seule année en cours. Et donc il en a bavé parce que tout le monde lui crachait la figure, il n'était pas du sérail, donc à l'époque il écrivait surtout des nouvelles et des longs articles, mais d'abord des nouvelles.
Une famille difficile.
Une famille absolument difficile, avec une mère, on va le dire, un peu folle, spiritiste, qui a voulu se suicider lorsqu'elle a dit à son mari, à son conjoint, qu'elle était enceinte. Et elle s'est ratée. Et donc,
quand elle était enceinte de lui.
Quand elle était enceinte de Jack London. Et évidemment, Jack London l'a appris, consciemment et inconsciemment auparavant. Il l'a appris pendant son enfance et l'adolescence, que sa mère avait voulu se débarrasser de lui quelque part, parce qu'elle avait voulu se tuer et tuer le bébé qu'elle portait dans son ventre. Donc, une enfance difficile, absolument. Et puis, chiche, modeste, enfin, on va dire pauvre carrément. Mais je pense qu'il y avait deux choses. Et là aussi, le malentendu peut-être vient de là. C'est que Jack London, d'abord, est un être hypersensible. Deuxièmement, il est gifted, comme on dit aux États-Unis. Il est doué, et je pense même qu'il est surdoué. Et d'autre part, il doit beaucoup aux femmes. C'est un être solitaire, enfin, en même temps, qui a énormément aimé sa deuxième femme, Charmian, qu'il connaît à l'âge de 26-27 ans, et avec laquelle il va vivre jusqu'à sa mort à 40 ans. Mais en même temps, une autre femme a beaucoup compté, c'est sa mère. Même si elle est à moitié folle, elle lui a transmis des dons. C'était quelqu'un qui était sensible, hypersensible, à cause de cette mère spiritiste et pianiste, donc artiste à 16 heures.
Alors, il doit beaucoup aux femmes, il doit aussi sûrement beaucoup à la littérature, parce que très jeune, il lit énormément.
Lorsque j'eus 10 ans, ma famille abandonna la campagne pour la ville. Je dois dire d'abord que j'avais découvert la bibliothèque publique et que je me plongeais dans la lecture jusqu'à complète prostration. Dans les pauvres fermes où j'avais vécu, les livres n'existaient pas. Par un pur miracle, on m'en avait prêté 4, des ouvrages merveilleux que j'avais dévorés. L'un était la biographie de Garfield, le second traitait des voyages en Afrique de Paul du Chaillu, le troisième était un roman de Ouida où il manquait les 40 dernières pages, le quatrième, les contes de l'Alhambra de Washington Irving. Je lisais tout, mais je m'attachais surtout à l'histoire, aux aventures et aux anciens voyages sur terre et sur mer. Je lisais le matin, l'après-midi et la nuit. Je lisais au lit, à table, à l'aller et au retour de l'école. Je lisais aux récréations pendant que mes camarades s'amusaient. Je commençais à avoir des tics. Je répondais à tout le monde « Allez-vous-en, vous m'agacez !»
Olivier Weber, c'est par la littérature que Jack London attrape le virus de l'aventure?
Oui, absolument. Et vraiment, il y a ces deux choses. Il y a l'apprentissage de la lecture, c'est très bien dit dans ce texte. Et puis deuxièmement, l'aventure vécue. Mais les deux se mêlaient. Donc il a voulu par l'aventure, tout ce qu'on a dit, chercheur d'or, ouvrier, vagabond, hobo sur les rails, donc à l'époque, à 20 ans, et puis reporter de guerre, réenchanter en fait son vécu et réenchanter quelque part le monde. Mais je crois encore une fois que c'est parce qu'il était surdoué. C'est quelqu'un d'abord, puisqu'il a travaillé à partir de 11 ans comme ouvrier, ne dormait pratiquement pas. Il rentrait dans sa chambre à Auckland, chez sa mère. Et en fait, il lisait à la lueur d'une chandelle. Il étudiait encore à 2h, 3h du matin. Il dormait 3-4 heures. Après, il se levait à 6h pour repartir à l'usine, etc. Et je crois qu'il a compris très vite, d'abord, par la technique, qu'il fallait un petit peu imiter les aînés. Donc en fait, il réécrivait quelque part les nouvelles des autres et il les, non pas plagié, mais il les parodiait. Donc il réécrivait ensuite une nouvelle ou une moitié de roman. Et puis deuxièmement, il a compris aussi que par le roman, qui pour moi est un compagnon, c'est un ami, c'est un pays extraordinaire que la littérature, parce que c'est un pays sans frontières, un roman vous prend par la main parce qu'il vous donne des valeurs, il vous donne votre propre miroir quelque part. C'est peut-être un peu ringard de dire ça, mais moi je suis quelquefois ému aux larmes quand je vois des jeunes au fin fond des banlieues de Calcutta ou à Soweto, en Afrique du Sud ou à Lima au Pérou, lire leurs auteurs de leur pays ou d'autres auteurs en langue étrangère, même Camus, j'ai vu en Bengali à Calcutta. Et donc voilà, Jack London a compris ça et il a voulu... fuir, mais la fuite en avant dans le bon sens du terme. En français, c'est souvent péjoratif. Pas du tout. Il faut partir devant parce qu'il était pauvre, il n'a pas le choix, etc. Puis il était quand même mal vu à l'école. Rendez-vous compte, à un moment, il est tellement complexé. C'est un petit peu cette lutte aussi contre l'ange, contre les démons sociaux qu'il revendique et qu'il exprime dans un livre magnifique. Et j'appelle les auditeurs vraiment à le lire ou le relire. C'est Martin Eden. Et Martin Eden, c'est un roman extraordinaire d'un être surdoué, donc qui est Jack London encore une fois, mais c'est en même temps son autobiographie. Et c'est le roman d'une intention de revanche sociale. Et Jack London, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il n'a pas pu faire des études, en fait, il a fait la high school, donc grosso modo le collège ou l'école, le lycée qui prépare à la faculté, non pas en 2 ans, mais en 4 mois. Et il rentre à Berkeley. Et à Berkeley, il est parmi la bourgeoisie de l'autre côté de la baie, donc de l'autre côté de San Francisco. Et il est avec la bourgeoisie, il s'entend pas très bien avec eux. Ils sont jeunes, ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans. Lui en a 20, il a le visage hâlé, il revient de ses voyages, etc.
Il c'est était ça, parce que quand ans. Il... Pardon, je vous interromps pour qu'on suive bien le fil de l'histoire. Il a cette première partie de sa vie où finalement il se forme sur le terrain, c'est-à-dire il est pilleur d'huîtres, vous l'avez dit. Ensuite, il va partir à la chasse aux phoques. Ça l'intéresse pas trop parce qu'il se retrouve sur une mer sanguinolente. Il est assez écœuré de ce qu'il voit. Il a 17 ans quand il part à la chasse aux phoques, un voyage qui va durer 7 mois. Il revient. Là encore, il va sur les rails. Il mène une vie de vagabond. Il se fait emprisonner pendant 30 jours. Et après avoir vécu tout ça, il va suivre 4 mois d'études à l'université. Voilà. On imagine le décalage avec les autres étudiants.
Voilà, surtout qu'à l'époque, être étudiant aux États-Unis, surtout en Californie, c'était évidemment être enfant de nantis, de puissants ou de la bourgeoisie. Et évidemment, il s'entend pas avec ses étudiants. Cela dit, pendant ces 6 mois d'études, une fois qu'il rentre à Berkeley, il apprend tout. Il va suivre les cours de philo, il va suivre les cours de mathématiques, il va suivre les cours d'histoire, de géographie. Il va étudier le darwinisme, il lit Darwin et Spencer, et même Karl Marx, tenez-vous bien dans le texte. D'autant plus qu'il rejoindra ensuite le Parti Socialiste Américain, section d'Auckland et section de San Francisco. Un Parti Socialiste qui était un parti vraiment communiste, révolutionnaire, marxiste à l'époque. Et c'était l'un des rares militants à avoir lu justement Karl Marx dans le texte. Donc voilà, c'était ça. C'était presque une éponge, mais au bon sens du terme. Il était, comment dirais-je, boulimique. Mais pourquoi était-il boulimique? Je vous donne un autre exemple. Donc je disais tout à l'heure qu'il gagnait $1 par jour en travaillant à 11 ans, 12 ans, 15 ans, 30 jours par mois, donc $30. Ensuite, vers 26-27 ans, après avoir essuyé ses multiples refus, il arrive à publier des nouvelles et avant de partir en croisière avec sa femme Charmian en 1903, donc à l'âge de 27 ans, il publie une nouvelle, il gagne $2000 en 15 jours. Donc il gagne en 15 jours ce qu'il aurait dû gagner en tant qu'ouvrier pendant 6 ans. Il avait à chaque fois envie de réécrire une nouvelle pour gagner aussi de l'argent. Pourquoi avait-il cette boulimie? Non seulement le désir d'écrire, mais il pouvait se calmer entre deux récits de nouvelles, c'est parce qu'il avait le manque dans la peau. Il a eu le froid, il avait connu la faim, etc. Donc cela, il ne voulait plus jamais le connaître.
Alors après ces quelques mois d'université, très vite, il est rattrapé par son goût de l'aventure, par ce manque, quand il apprend à la découverte d'un gisement d'or dans le Klondike, une région sauvage du Canada. Il décide de participer à cette ruée vers l'or, un voyage vers le Grand Nord sauvage qui marquera le reste de sa vie et lui inspirera ses plus beaux romans. Vous allez nous raconter, Olivier Weber, cette aventure fondatrice qu'il va vivre dans le Grand Nord canadien avec les chercheurs d'or, le temps d'un bivouac sur les pas de Jack London, jusqu'à 18h sur France Inter.
Call me on, take me out of modern confusion, underneath the sky, onto stony ground. Wild grasses in every step, wild grasses guide me to the ledge, wild grasses cushion every.
Diagramme chante Wild Grasses sur France Inter, le temps d'un bivouac.
D'après tout ce que j'entends, la folie de l'or s'est emparée du monde entier. Par milliers de gens, de toutes les couches sociales, affluent à San Francisco et à Seattle et se battent pour avoir un passage vers l'Alaska.
Est-ce que vous vous rendez compte, juge? On dit qu'au Klondike, la rivière est quasi remplie d'or. J'ai tout étudié. On prend le train jusqu'à Seattle. Et en bateau, on suit la côte jusqu'à Skagway. Avec du cran, c'est à la portée de tout le monde.
Oui, mais on prend soin de passer sous silence le voyage depuis Skagway jusqu'à Dawson. Et pour ça, il faut suivre une piste qui est la plus effrayante du monde. 900 kilomètres de rochers, de neige et de glace, avec des températures qui vont jusqu'à 50 degrés au-dessous de zéro.
Extrait du film L'appel de la forêt, adaptation du roman de Jack London, L'appel de la forêt ou L'appel sauvage. Hein. Vous nous avez dit, Olivier Weber, la traduction n'était pas bonne, donc le titre a ensuite été retraduit. Olivier Weber signe une très belle biographie aux éditions Paulsen, Jack London, L'appel du grand tailleur. Alors le 14 juillet 1897, de riches gisements aurifères sont découverts dans cette région sauvage du Canada, le Klondike. Ça occasionne une véritable ruée vers l'or et évidemment Jack London veut en être.
Absolument, on est sur les quais de San Francisco et d'Oakland, et Jack London, qui a 21 ans, qui revient de quelques voyages, y compris en tant que hobo, que vagabond sur les rails, après avoir été arrêté, vous le disiez tout à l'heure, eh bien, elle entend ça, cette rumeur qui parcourt toute la Californie de l'or, de l'or, de l'or. Ce sont une quinzaine de chercheurs d'or qui reviennent par ce bateau, en juillet 1897, vous le disiez, Excelsior. Évidemment, tout le monde part. Jusqu'à 100 000 volontaires, candidats à l'or, à la fortune, partent vers le Grand Nord, vers l'Alaska, mais surtout le Klondike. Et lui, Jack London y va. Alors, il faut passer une grande pente qui s'appelle le Chilcot Pass, derrière laquelle se cachent des gardiens, enfin des gardes policiers, de la police montée canadienne, qui interdisent l'entrée si on n'a pas plus, moins d'une tonne de matériel. Sinon, on sait qu'on va mourir de l'autre côté, donc il faut être nanti équipé. Et Jack London, que fait-il? Il va faire plein d'allers-retours, au lieu de prendre des trappeurs, des porteurs indiens. Il va porter lui-même par charge de 40 kilos à faire l'aller-retour. Bref, je vous la fais courte, il arrive à Dawson, sur le Yukon, côté Klondike, et au Canada. Et donc, il va rester un an, là.
C'est quand même un chemin particulièrement difficile. Il faut dire que la moitié de ceux qui l'entreprennent rebroussent chemin, parce que c'est trop difficile de passer par ce passage. Et lui, non seulement il le fait, mais comme vous le dites, il le fait plusieurs fois avec plusieurs allers-retours pour pouvoir porter tout son matériel.
Pour porter tout seul et gagner quelques dollars. Et donc, il va trouver là-bas des pépites extraordinaires. Il va pas trouver beaucoup d'or, parce que pendant l'année qu'il va passer en Canada, donc dans le Klondike, eh bien, il va passer beaucoup plus de temps à écouter les récits, ou à se faire des amis, ou à passer du temps dans les bars ou les cabanes, que dans les mines d'or. Il va ramener, au bout d'un an d'ailleurs, tenez-vous bien, simplement 4,5 grammes d'or en paillettes. Grosso modo, en euros d'aujourd'hui, en pouvoir d'achat 2017, ça ferait quelqu'un qui reviendrait avec dans sa besace 200 à 300 euros. Franchement, ça vaut.
Pour combien de temps passé là-bas,
vous dites ? Plus d'un an passé là-bas. Et en fait, il est revenu avec le scorbut. Mais en même temps, il avait cette flamme dans les yeux, cette fortune, en fait, qui était le récit des autres. Il va ramener ses trésors, même si la vie pour lui a été dure. Et elle était tellement dure d'ailleurs qu'il n'avait pas de thermomètre, mais il calculait la température. Vous savez comment ? Il crachait en l'air. Et si le crachat retombait gelé au sol, pour lui, c'était moins 40 degrés. Donc, il a passé son temps avec du moins 40 ou du moins 50. Mais c'était surtout l'aventure qu'il tentait. Donc, voilà, il revient à San Francisco à 22 ans, donc avec énormément de pépites dans sa besace, qui sont des pépites littéraires, des portraits, et des portraits de chiens en particulier.
Ouais. Alors, on dispose de témoignages de gens qui ont croisé sa route, comme celui de ce pionnier lu par Jean-Pierre Milovanov.
La nature dispose de nombreux tours pour nous faire comprendre nos limites. Mais le plus formidable d'entre eux, le plus stupéfiant, est le moment inactif du silence blanc. Tout mouvement s'arrête, le ciel s'éclaircit et prend l'aspect d'une plaque mortuaire. Le plus léger murmure semble sacrilège, et l'homme devient timide, effrayé par le son de sa propre voix. Personne ne parle. Tout le monde pense, chacun prend sa véritable dimension. Ici, j'ai trouvé la mienne.
Alors ça, c'est plus exactement un texte de lui, de Jack London, qui montre à quel point il n'a pas uniquement recueilli des témoignages, mais il s'est aussi imprégné de ce lieu. Ça, c'est l'extrait d'une nouvelle intitulée Le silence blanc. Ce qu'il décrit, c'est à la fois ce paysage très rude et aussi l'homme démuni face, et finalement qui prend peur face à cette immensité.
Tout à fait, c'est ce qui va le marquer. Il en a l'intime conviction depuis l'enfance, qu'il était seul dans un désert social, qui était donc Oakland pour lui, issu des basses castes de la société américaine. Mais là, il va comprendre qu'il a un rôle à jouer, un rôle littéraire aussi, mais il va faire preuve de philosophie en quelque sorte. On est démuni face à la nature et l'homme est sûrement trop arrogant. D'ailleurs, quand vous évoquiez cette lecture faite par Natalia, la femme de Lénine, à Lénine, sur son lit de mort dans les années 1920, eh bien, c'est Construire un feu, qui est une longue nouvelle de Jack London, qui montre qu'en fait, il faut savoir faire un feu et ne pas se moquer de la nature. Et donc, voilà, il va apprendre ça, il va le vivre dans sa chair, mais c'est une sorte aussi d'angoisse révélée qui va contrer bizarrement ses propres affres enfance. C'était quelqu'un de très angoissé, de très inquiet. Mais justement, cette inquiétude était transformée en une sorte d'élan. Les Allemands appellent ça la Sehnsucht, la nostalgie du lendemain. Eh bien, c'est ce qu'il avait, cette mélancolie qui le poussait à aller plus loin, Jack London.
Et ce témoignage dont je vous parlais, hein, qui de pionniers qui étaient avec lui sur le terrain pendant cette ruée vers l'or et qui l'ont croisé et qui décrivent quand même un comportement singulier de ce Jack London. Le texte est lu par Jean-Pierre Milovanov.
J'ai rencontré London pour la première fois dans un bar de Dawson à la fin de l'automne 1897. London était certainement en train de prospecter, mais c'était dans les bars qu'il cherchait son matériel. Je savais qu'il avait piqueté un clem, et il est probable que sa haine du capitalisme ne s'étendait pas à l'acquisition de la richesse pour lui-même. Mais je ne l'ai jamais vu en exploiter un. Je ne l'ai jamais rencontré sur la piste, et je ne me souviens pas de l'avoir vu ailleurs que dans les bars de Dawson. Il me semble que chaque fois que je l'ai vu dans un bar, il était toujours en conversation avec quelques vétérans ou personnages célèbres de Dawson et qu'il le faisait parler.
C'est ce que vous nous disiez, hein, Olivier Weber. Les pépites qu'il a ramenées de son aventure dans le Grand Nord, c'est ses tranches de vie, c'est ses témoignages, c'est ses récits humains, ses personnalités qu'il a croisées.
Absolument. Parce qu'il faut se rendre compte que ces gens qui partent, ces 100 000 personnes candidats à la fortune qui partent en 1897 vers le Klondike ou l'Alaska, Canada et Alaska, ce sont pas simplement des ouvriers, il y a aussi des juges, il y a des médecins, il y a des entrepreneurs qui veulent refaire fortune, quelquefois des gens qui sont endettés. Et donc, il va croiser toutes sortes de gens, des truands également, des prostituées. On faisait venir des prostituées non seulement de la côte Est, mais aussi de France et même d'Égypte. Donc, il va rencontrer tous ces gens-là dans les cabarets, dans les bordels, parce qu'il les fréquentait également. Et puis aussi, les bars, on buvait beaucoup d'alcool. Je crois que pour se réchauffer, il a bu beaucoup de bière et beaucoup de whisky, surtout.
Oui, alors, c'est vrai, on l'a peu dit, mais il a tout fait très jeune, y compris être alcoolique. Hein, parce que quand il était mineur, quand il était déjà dans la baie de San Francisco, pilleur d'huîtres, il écumait les bars.
Absolument.
Et il se battait et il buvait beaucoup. Et toute sa vie, il a énormément bu.
Tout à fait, il a beaucoup bu. C'est ce qui le relie à Joseph Kessel, qui lui l'avait beaucoup lu également. Mais Kessel n'était pas un alcoolique. Jack London était alcoolique. Il le disait lui-même. D'ailleurs, je parlais de Martin Eden comme étant son chef-d'œuvre autobiographique romancé. Il y a un autre livre qui s'appelle John Barleycorn. Donc, c'est le cabaret de la dernière chance, qui était en fait le saloon où il aimait se retrouver, enfant, adolescent. C'était le Johnny Hennold, donc le tenancier du cabaret qui avait pris sous sa coupe. Le cabaret, c'était un petit saloon, en fait. Hein. Et bien là, évidemment, il avait beaucoup appris, beaucoup vu et il avait beaucoup entendu de choses. Et simplement, donc, avait décrit toutes ces beuveries dans ce livre, Le cabaret de la dernière chance, et en fait c'était pour les autres, pour dire n'y tombez pas. Et lui, sa première cuite, tenez-vous bien, c'est à quel âge? C'est à l'âge de 7 ans. Et depuis, il avait vécu cette addiction très difficilement. Il est mort à 40 ans. L'alcool, indirectement, a contribué également à sa déchéance physique, voire à sa mort.
Alors il revient de ce Grand Nord où il a tant appris, où il a tant rencontré, même s'il revient sans un sou en poche, vous nous avez dit 4 dollars et 50 cents pour un an à chercher de l'or, c'est vraiment évidemment très peu. Il essaie de se faire publier. Au début, ça ne prend pas, hein. C'est-à-dire qu'il l'essaie par tous les moyens, il met sa machine à écrire en gage, il n'a pas un sou et on ne veut pas de ses écrits, notamment une odyssée du Klondike qu'il a beaucoup de mal à faire publier.
Absolument, et pourtant il avait, en tant que jeune marin de retour de cette virée dont vous parliez, à la chasse aux phoques, dans la mer de Bering et dans la mer du Japon, publié une nouvelle qui s'appelle un typhon au large de la mer du Japon, qui est une petite nouvelle qu'on peut retrouver, qui est de toute beauté. Il a 17 ans à l'époque, il reçoit un prix, mais un prix donné par un éditeur et un grand journal de San Francisco, mais cela ne l'a pas lancé, parce qu'encore une fois, il a refusé des centaines de refus, et à un moment, il va voir un rédacteur en chef. Il l'empoigne par le collet en disant « Mais voilà, tu vas me payer, tu ne me publies pas, mais tu me dois 5 dollars, etc. » Il les reçoit effectivement. Il se trouve qu'il va naviguer plus tard avec ce rédacteur en chef qui n'était pas rancunier. mais donc voilà, il n'appartenait pas à la caste ni au sérail. Donc ce qui est admirable, simplement pour les auditeurs à se rappeler, c'est que malgré ces échecs, malgré ses refus, il va beaucoup apprendre de ses propres échecs, comme on dit aujourd'hui, et bien donc jamais il ne va se décourager, et donc cela va l'enrichir au contraire. Ouais. Et il va même se perfectionner en continuant à écrire la nuit durant, donc, et c'est ainsi qu'il va publier ses premières nouvelles.
Ouais. Et Une Odyssée au Klondike va être finalement publiée, et là c'est un succès, enfin, même si son écriture bouleverse les codes, les lecteurs apprécient, en redemandent, et ça y est, enfin, il se fait un nom, il se fait aussi un peu d'argent. Son voyage suivant, c'est un voyage dans les bas-fonds de Londres. Il décide finalement, lui, il y a toujours cette conscience politique qui n'est jamais très loin avec Jack London, d'aller un peu dans la ville la plus riche du monde à cette époque, mais d'aller avec les plus pauvres qui habitent cette ville la plus riche du monde.
Oui, c'est vrai, c'est un peu la théorie du balancier. Il revient vers sa caste d'origine. Mais alors, c'est étonnant parce qu'il était reporter de guerre aussi. Et là, l'histoire du peuple d'en bas ou du peuple de l'abîme, donc l'histoire de cette chronique des indigents, des sans domicile fixe qu'on n'appelait pas déjà ainsi à Londres, eh bien c'est l'histoire d'un faux départ. Pourquoi ? Parce que de San Francisco, il veut absolument couvrir une autre guerre, qui est la guerre des Boers, en fait, la guerre des colons en Afrique du Sud. Et puis quand il arrive à New York, qui est assez loin, il faut traverser tout le territoire américain, il apprend que la guerre est finie. Eh bien, au lieu de partir vers le Cap en Afrique du Sud, il part vers Londres, il en parle à Macmillan, son éditeur à New York, entièrement d'accord. Et donc pendant effectivement des semaines et des semaines, il va couvrir en quelque sorte cet autre événement, cette autre guerre sociale qui est celle de la misère, celle des sans-domicile, de la pauvreté dans les quartiers de l'East End, donc de l'Est de Londres. C'est magnifique comme texte.
C'est le peuple du pavé qui est abruti et sans force. Les hommes ne sont plus que des caricatures d'eux-mêmes. Leurs femmes et leurs enfants sont pâles, anémiés. Leurs yeux sont cerclés de noir. Ils ont le dos voûté et traînent la savate. Et deviennent très vite rachitiques, sans grâce et sans beauté. C'est une souche déracinée qu'on abandonne jusqu'à la plus complète pourriture.
Extrait du Peuple de l'Abîme de Jack London. C'est plus une démarche de reporter que de romancier, ce qu'il va faire là-bas, Olivier Weber.
Oui, absolument, ça le démangeait. Il avait envie de reprendre la route, mais justement en même temps pour s'ancrer avec un peuple, donc, qui est le peuple de ces indigents, auquel on interdisait, tenez-vous bien, de s'arrêter la nuit. Donc en fait, on avait 10 000 pauvres, 10 000 indigents sans domicile, donc qui tournaient toute la nuit, parce que sinon la police, la maréchaussée, les frappait à coups de matraque. Donc voilà, il va vivre, il va tourner dans les rues avec lui. Et oui, c'est plus un reportage, je dirais presque un reportage romancé, en tout cas romanesque, évidemment qu'une fiction. Mais cela va lui servir ensuite à écrire d'autres romans, des romans sociaux également.
Et puis des voyages un peu en tant que reporter, il en fera d'autres. Il ira notamment en Corée pour une nouvelle aventure sur le fil. Il manquera de peu de se faire condamner à mort. Vous allez nous raconter comment il s'est retrouvé dans cette situation. Dans un instant, Olivier Weber, vous écoutez France Inter, Le Temps d'un bivouac, sur les pas de Jack London.
L'asphalte brille sous mes pieds, éblouit mes yeux humides. Dans la nuit noire et glacée, drapé dans la brume, acide sur le parking, paumé d'un bar de nuit sordide, j'ai envie de l'embrasser. Serre les poings dans mes poches et je retiens mon souffle. Pendant que je m'approche lentement de sa bouche, serre les poings dans mes poches et je retiens mon souffle. Pendant que je m'approche lentement de sa bouche. L'asphalte noir étincelle, éblouit mes yeux timides. Son beau visage ruisselle, drapé d'un brouillard liquide. Sur le parking, paumé d'un bar de nuit sordide, j'ai envie de l'embrasser. Serre les poings dans mes poches et je retiens mon souffle. Pendant que je m'approche
C'était Bar de nuit, chanté par Sandor dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
En septembre 1905, la Russie et le Japon signaient la fin d'un conflit majeur du XXe siècle. La guerre entre les deux puissances impérialistes avait éclaté un an et demi auparavant pour le contrôle de la Mandchourie et de la Corée et trouva son épicentre dans le siège de Port Arthur occupé par les Russes.
Nous sommes toujours avec Olivier Weber, auteur de Jack London, L'appel du grand tailleur aux éditions Paul Sen. Et cette guerre dont on vient d'évoquer les causes, hein, qui s'est déroulée entre 1904 et 1905, entre le Japon et la Russie, Jack London veut la couvrir. Alors il se rend, même avant que le conflit éclate, il prend la route pour le Japon.
Pour le Japon, absolument. Et donc, il veut être correspondant de guerre, ce qu'il fait très bien d'ailleurs, parce qu'il part sur un bateau depuis San Francisco avec des collègues qui vont devenir des amis, qu'il va retrouver d'ailleurs pour une autre couverture d'événements qui était la guerre au Mexique quelques années plus tard. Mais là, ça se passe pas extrêmement bien. En tout cas, pour la Corée, pour cette guerre russo-japonaise, ses grands confrères, les grandes plumes de l'époque reconnaissent que c'est vraiment un petit frère vraiment talentueux. D'autant plus qu'il va prendre des photos. Et on est étonné aujourd'hui de voir, en retrouvant ces photos au fin fond des bibliothèques américaines, elles ont été publiées d'ailleurs, que c'était un écrivain de talent, certes, mais aussi un photographe de talent. Il avait un sens du portrait extraordinaire. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette guerre entre deux empires ? La Russie, enfin l'empire tsariste, et l'empire japonais, l'empire du soleil levant. Eh bien, ce sont très souvent les paysans et les civils qui triment déjà. On sait très bien que les guerres du XXe siècle vont faire beaucoup plus de morts parmi les civils que parmi les militaires. Et lui, il prend en photo, il décrit aussi ces réfugiés, ces paysans coréens ou japonais qui sont donc les victimes du conflit. Alors le problème, c'est qu'évidemment, il va un peu plus vite que les autres, et il franchit les lignes, les frontières, il monte sur des bateaux avec lesquels il n'a pas d'autorisation. Ouais. Et là, ça va lui coûter très très cher, on le met en prison, on le menace évidemment d'exécution, etc. Il va s'en sortir grâce à quelques appuis, et bien sûr à l'appui consulaire.
Mais c'est-à-dire, en plus, à ce moment-là, bon, le Japon, il est toujours un peu surveillé par des espions ou des agents japonais, on lui interdit... C'est en Corée hein, que ça se passe, oui. C'est un peu là la zone des conflits entre la Russie, le pays se retrouve un petit peu entre le marteau et l'enclume, donc c'est un peu là que ça se passe. Mais la zone est difficile d'accès, on lui interdit en fait d'y aller. Mais on n'interdit pas comme ça à Jack London.
Non, et c'est là où on se dit, bon, quand on a été correspondant de guerre, reporter de guerre, c'est vrai que, voilà, on connaît un petit peu, grosso modo, après quelques années d'expérience, les ficelles pour passer une frontière, aller voir une zone de conflit, une ligne de front, etc. Lui, on sent très bien à travers ses écrits, ses reportages, qu'il avait un don pour ça. Encore une fois, il était peut-être gifted, il était peut-être surdoué de ce côté-là. Il avait compris en analysant, grosso modo, la situation stratégique du pays ou des pays en guerre qu'il fallait passer par tel ou tel chemin. Et donc, il taille la route. Il va devant, il quitte son agent, agent secret, son espion, etc. Ce qui agace, c'est un euphémisme, évidemment, les Japonais, qui veulent le fusiller pratiquement, etc. En plus, il se permet d'envoyer de la copie, etc. Donc d'écrire des reportages assez négatifs aussi sur certains des belligérants. Et donc voilà, ça c'est le talent de Jack London, qui lorsqu'il est écrivain, fait d'excellentes nouvelles et des romans extraordinaires, des chefs-d'œuvre. Mais lorsqu'il est reporter, il sait non seulement décrire les situations, y compris par le portrait, comme l'ont fait Hemingway quelques années plus tard, qui avait lu Jack London, Kessel ou Albert Londres, qui avait lu aussi tous les deux Jack London. Mais en même temps, il va s'inspirer des techniques, il va savoir faire. Donc ça, c'est quand même extraordinaire parce que voilà, il réussit tout ce qu'il touche, Jack London.
Et il prend de gros risques hein, quand même dans cette histoire. Alors aussi un tempérament assez personnel, c'est-à-dire que les autres grands reporters, souvent, ils préfèrent les semer, ne pas être avec eux. Il a quand même un tempérament un peu...
Absolument. Moi, je dirais de fugueur, même. Alors, c'est extraordinaire parce que vous parliez de contradiction ou d'ambivalence. C'est vrai que toute sa vie, par exemple, Jack London a plaidé, enfin, une bonne partie de sa vie, donc l'individualisme forcené.
C'est
tout en étant marxiste, avec des contradictions incroyables sur le darwinisme social, les écrits de Spencer, qui avait parlé de sélection naturelle et sociale, etc. Donc, épris de contradiction. Et puis là, encore une fois, il fait très vite donc cavalier seul, quelque part. Lui qu'on a appelé le loup, enfin ses amis, écrivains et poètes de la Silicon Valley et du club Bohemian Club, l'appelait The Wolf, le loup. Mais c'est vrai que c'est un loup solitaire quelque part. Et donc, voilà, il aimait prendre les devants et aller au-devant du danger quelque part. Non seulement sur les mers, mais sur terre, évidemment, avec les guerres.
Et alors, le geste de trop, un jour, il perd patience. Il en vient aux mains avec un de ses assistants qui tente de lui voler le fourrage de ses montures. Parce qu'il qu'il est toujours avec deux mulets pour porter tout son matériel. Et donc, dans un coup de sang, il le tape, il le frappe. Ça lui coûte très cher. Il est emprisonné. Il risque la cour martiale et il encourt potentiellement la peine de mort. Ça va remonter très loin, cette histoire. Ça montre aussi l'importance de ce journaliste, écrivain qui vient des bas-fonds de San Francisco et qui se retrouve maintenant connu du monde entier. C'est le président Roosevelt lui-même qui va devoir intervenir pour lui sauver la mise.
Tout à fait. Tout ça, ça se passe évidemment par l'intermédiaire de l'ambassadeur américain au Japon. Mais en tout cas, toutes les autorités américaines sont au courant et bien sûr le président donc Roosevelt. Et ça va très très loin et en fait, oui, il commençait à être connu en même temps, comme vous le disiez, comme il vient des bas-fonds, ben voilà, faut pas lui faire trop de remontrances. C'était quelqu'un de sanguin, donc encore une fois, il a perdu une partie de ses dents dans les batailles et les bagarres lorsqu'il était à Auckland, adolescent et presque voyou, on va dire, carrément, ou lorsqu'il était prince des pilleurs d'huîtres dans la baie de San Francisco. Donc voilà, il fallait pas lui marcher sur les pieds. Donc je parlais de Kessel, Joseph Kessel fera un peu la même chose après. Ce sont deux personnalités qui aimaient se battre, mais surtout, je crois, qui n'aimaient pas l'injustice. Et vraiment, il fallait pas que ça lui montonnait. Bon, là, c'est un petit peu parce qu'on le privait de la possibilité de mettre de l'essence dans son scooter. Au sein
c'est ça,
le fourrage de sa monture. Il avait compris qu'il lui fallait évidemment les deux montures pour aller plus loin. Et voilà. Mais je crois qu'il n'avait pas compris, en revanche, les conséquences de son acte. Oui. Évidemment, il aurait pu rester en prison quelques années.
Alors que là, il y restera pas trop longtemps. Voilà. Il est rapatrié, évidemment, aux États-Unis après cet incident diplomatique qui a demandé l'intervention du président Roosevelt. À son retour, sa femme, avec qui il était marié depuis 4 ans, hein, depuis 1900, demande le divorce. Elle ne le voit pas beaucoup. Oui. Ses frasques commencent un peu à lui déplaire. Elle préfère se séparer de lui.
Voilà, ils se séparent. Le divorce est assez sanglant. Tout ça se passe par lettre interposée, etc. Avec une demande, évidemment, de pension alimentaire très forte, de don d'une partie de la fortune, enfin des droits d'auteur de Jack London. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, Jack London tombe très vite amoureux d'une cavalière de la bourgeoisie qui s'appelle Charmian Kittredge et qui va devenir sa compagne, son amie, presque son co-auteur et bien sûr la femme de sa vie et qui va le pousser à l'aventure. C'est pas du tout une aventurière au départ, elle monte à cheval certes, mais elle sait pas faire du bateau, mais elle lui dit allez, on y va, on prend le bateau, et elle va l'aider tout le temps.
Et alors, c'est une femme de caractère, hein, voilà, elle a du répondant, des idées féministes, elle relit ses textes, c'est en ça que vous dites presque co-auteur, elle relit ses textes, elle les tape, et finalement, il y voit une vraie alliée, en plus de son amoureuse.
C'est une vraie alliée, il est profondément donc amoureux de Charmian, ça va durer de 26 ans jusqu'à sa mort, donc 40 ans, pendant 14 ans, et elle a vécu beaucoup plus longtemps que l'âge de 40 ans. Charmian, et c'était un binôme incroyable. Je crois que Jack London sans Charmian n'aurait pas été Jack London. Elle réécrivait les textes, mais elle réécrivait le conseil, on va dire, et lui, en fait, c'est un petit peu sa sacro-sainte habitude, donc il dormait peu, je l'ai dit tout à l'heure, il se levait vers 5 heures du matin, dans ce ranch qu'il a commencé à acheter au nord de San Francisco.
Dans la vallée de la Lune.
La vallée de la Lune, absolument, Glen Helen, qu'on peut encore visiter aujourd'hui, c'est à 2 heures de route de San Francisco, c'est magnifique, c'est de toute beauté, et c'est un ranch écologique avant l'heure. Il veut être fermier modèle, avec un engrais sans pesticides, etc. Les fermiers se moquent un petit peu de lui, se foutent de sa gueule même carrément. Et puis finalement, il a gain de cause. Et Charmian est là. Et tous les matins, donc, avant d'aller visiter son ranch, gérer quand même les affaires de la ferme, eh bien, il écrit, tenez-vous bien, 1000 mots. 1000 mots, ça fait à peu près 4 pages, 4 feuillets format thèse, hein, ou format livre que l'on donne, manuscrit que l'on donne à son éditeur. Et donc, elle va les corriger, va les relire, va les retaper, etc. Et ensuite, il va faire la sieste, ensuite, il va faire son courrier, etc. Mais c'est vraiment un binôme amoureux, conjugal très fort, mais aussi littéraire. Et je crois vraiment que l'un sans l'autre, ça n'aurait pas pu marcher.
1000 mots par jour, hein, c'était cette hygiène de vie qu'il s'était imposée. Et c'est comme ça qu'il écrira Cro-Blanc, notamment.
Vers 3 heures de l'après-midi, le long crépuscule s'éteignit dans la nuit. Les étoiles parurent très proches, perçantes et brillantes. À leur clarté, hommes et chiens cheminaient encore. Ils étaient inlassables. Et ils n'accomplirent pas cet effort un seul jour, mais ce premier effort, ils le répétèrent 60 jours de suite. Bien que Delight eût passé une nuit sans sommeil, une nuit de danse et d'orgie, il n'y paraissait pas. Il voyageait sans montre, sentant la fuite du temps qu'il calculait largement par des procédés instinctifs. Quand il lui parut être à peu près 6 heures, il chercha un endroit pour camper.
Un extrait de Cro-Blanc, donc ce roman sera publié en 1906, roman de Jack London évidemment. Là l'histoire c'est un petit peu l'inverse de celle de l'appel de la forêt, c'est-à-dire que pour l'appel de la forêt c'était un chien domestique qui revenait à l'état sauvage, voilà. Là c'est l'inverse.
Et là c'est l'inverse, donc c'est un chien de la forêt, un chien loup qui se socialise en quelque sorte, donc là aussi il y a une métaphore, il y a une parabole, hein. C'est l'éducation, ça peut être l'auto-éducation comme l'a fait Jack London qui était en grande partie, donc on l'a compris, autodidacte, et puis aussi le contact avec l'être humain, la condition humaine, pour le meilleur et pour le pire. Alors l'histoire de Cro-Blanc, puisqu'il est déjà connu à l'époque, Jack London, ça sort 3 ans après l'appel de la forêt qui va en faire un écrivain mondialement connu, et bien Cro-Blanc va lui permettre aussi de payer quelques dépenses, dont son bateau. Voilà,
bien sûr, Stark. Parce que Cro-Blanc, c'est un succès mondial, voilà. Jack London est l'auteur américain le plus influent de son époque, hein. À ce moment-là, il gagne de l'argent, beaucoup d'argent, de quoi faire de nouveaux projets, comme celui de construire donc ce bateau pour repartir vers de nouvelles aventures. Ce sera le Snark. Il ira jusqu'aux îles Marquises. Jack London n'a que 30 ans à ce moment-là, mais il n'est plus très loin de la fin de sa courte vie et aussi flamboyante existence. Comme vous allez nous raconter tout ça dans un instant, Olivier Weber, vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac.
Ouh ! Aïe, aïe, aïe. C'est le retour de Ken Master, Ken Shin, Ken Taro, Ken ta sœur. On veut tous se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Ça c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier. C'est sur la scène que les premières lueurs du matin déteignent. L'humanité meurt depuis qu'on a quitté le jardin d'Éden. On a le rêve dans le cœur, le cauchemar dans les veines. Plus je monte et plus je m'identifie à Martin Eden. Moi je suis un Babtou à part, je vois plein de Babtou pompeux. Mais sache que les Babtou comme moi n'aiment pas les Babtou comme eux. Surtout quand les Babtou ont peur, tout le monde m'invite dans les plans. Fils de pute, bien sûr que c'est plus facile pour toi quand t'es blanc. Les riches font partie des plus radins dans cet empire de piranha. Parfois je reconnais même plus ma patrie comme mon pote iranien. T'oublies tout élément du rap, hein. J'ai de te mentir un peu du genre. Si jamais je m'espagne du premier coup tout ira bien. J'ai jamais été gratte à rien quand tu taffes peu. Il me faut un casque intégral, je vais braquer l'industrie comme les Daft Punk. Je vais transformer en F dollar le S du S tout. Ouais. Ça c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. On veut se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier, yeah, yeah. Je devais micrave cette bœuf, mais je m'allume un bédo puis de piano. Et j'oublie tout sur cette putain de mélodie de piano. Je pense à ce garçon si fier, un jour ses soucis s'intensifièrent. Dire qu'on s'est vu hier, aujourd'hui il survit sur une civière. Subir un traumatisme et te remettre à moitié entre médicaments et cam. Autrement dit, la trame est dramatique. Mais pour faire la fête, pas besoin de mettre en fête. Termine en fait, t'es fait frère, mais maintenant fais ta vie. J'mets la nitro, j'mets une femme ni trop bête ni trop belle. J'fume de l'hydro, bonique, j'bois de l'hydromel. On embarque tout l'équipage où le bateau ne part pas. Si tu parles de ceux qui parlent, fais pas croire que tu parles pas. J'ai vomi dans la benzo de mon homie Kezo. Nouveau hoodie Kenzo, c'est comme ça que Kenzone. J'me téléporte dans la Batcave, j'aime pas les bords mais pas que. Bla 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 ta gueule, j'ai claqué les portes comme un bacque. Ceux qui n'aiment pas le petit grec seront en run. Je m'en tape tant que mes tigres se ronronnent. Mes ennemis sont en bad, vu qu'ils sont en bas de l'échelle. Et je me fais lécher par les modèles d'Obada. Rien ne sert de nier, y'a pas meilleur que nous, y'a. Connecté au pilier de LA jusqu'à que New York. Voyage en avion, on a pris un billet. On a fait le show et on a pris un billet. Ah, ça c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. On veut se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier, yeah, yeah, yeah.
C'était Martin Eden. Jack London a inspiré même les chanteurs actuels. Nekfeu sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Ça raconte quoi votre prochain roman, Jack?
L'histoire d'un jeune marin qui rêve de devenir écrivain.
Vous racontez votre propre histoire?
Oui et non. Le héros s'appelle Martin.
Non, comme moi?
Martin Eden.
Et il a réussi à devenir écrivain?
Oui. Et même célèbre.
Ah, tant mieux. J'aime les livres qui se terminent bien.
Pas si bien, en fait. Je crois qu'il va se suicider.
Ah.
Ne fais pas cette tête. C'est du roman.
Mais pourquoi? Pourquoi, puisqu'il réussit?
Peut-être bien parce que je n'ai pas d'autre idée.
Extrait d'une fiction réalisée pour Autant en emporte l'histoire de Stéphanie Duncan sur France Inter. Nous étions donc sur le Snark, ce bateau que Jack London s'est fait construire, Olivier Weber. Et là, il était en pleine discussion avec son jeune cuisinier pour qui il a beaucoup de sympathie. Il s'identifie un peu à lui, jeune cuisinier du nom de Martin. Et il discute de son héros qui fera un superbe roman, Martin Eden.
Martin Eden, absolument. Martin, le cuisinier, c'est pas n'importe qui, c'est Martin Johnson qui est... enfant, on va dire, d'une grande famille, mais qui veut connaître l'aventure. Et surtout, il va devenir l'un des plus grands documentaristes américains. Et en tout cas, le premier avec sa femme, Osa Johnson. Ils vont filmer dans les réserves, au fin fond de l'Afrique, etc. Très beau livre, d'ailleurs, de Michel Lebris, roman La beauté du monde, sur la vie de Martin Johnson donc, et de Osa. Et là, donc, on est sur le bateau, sur le pont du Snark, 15 mètres de long. Ça a coûté à Jack London une fortune. Ça a dû coûter 3 000 $. Donc, 3 000 $, ça veut dire quand même jusqu'à 10 ans du salaire d'un ouvrier. Ça finit à 30 000 $. Ouais. Donc, voilà, il n'en pouvait plus, etc. En plus, le tremblement de terre, le terrible tremblement de terre de San Francisco en 1906 retarde la livraison sur les quais de San Francisco de ce bateau. Il finit par partir. Et puis, il va écrire, donc, à bord, ce Martin Eden, dans la cabine dédiée à l'écriture, donc, avec Charmian Kiladé. Oui, c'est un livre magnifique pour moi et vraiment je le recommande fortement aux auditeurs et s'ils l'ont lu, il faut le relire. Et en même temps, il est tragique parce que ça se finit mal. Et Jack London va jusqu'à la fin de sa vie semer des petits cailloux comme un petit poussé sur sa destinée. Et on ne saura jamais, en fait, s'il s'est suicidé ou pas. Bon, on pense que c'est une mort par surdose d'opium, en fait, pour soigner ses crises d'urémie, ses maladies qu'il avait ramenées, tropicales entre autres, de ses équipées en mer sur le Snark avec Charmian, maladie aux jambes, l'alcoolisme aussi un petit peu, donc il prenait beaucoup d'opium. Mais ses amis ont dit, dont George Sterling, son grand ami, il voulait se suicider. Mmh. Et le premier médecin qui vient lorsqu'il meurt en novembre 1916, donc il y a 101 ans à peu près, conclut de la même manière. C'est la famille qui poussera les autres médecins à dire le contraire. Alors peut-être que les autres médecins avaient raison, mais toujours est-il que Jack London a envie d'entretenir quelque part le mythe avant même de mourir, donc, et la légende.
Oui. Son héros, Martin Eden, qui est un peu son double littéraire, a effectivement, comme vous le disiez, une fin tragique dans son roman. Il se suicide.
Il ouvrit le hublot et se jeta dans la mer. L'instinct de conservation le fit nager longtemps de toutes ses forces. Puis il se laissa couler au fond de la mer. Vinrent la souffrance et l'étouffement. Au bord de l'inconscience, il sut que ce n'était pas encore la mort. C'était la vie, cette atroce sensation d'étouffement. Dans un dernier sursaut, il se mit à battre des pieds et des bras, faisant bouillonner l'eau en gerbes spasmodiques. Mais malgré ses efforts désespérés, il était incapable de remonter à la surface. Il sombra dans la nuit. Cela, il le sut encore. Il venait de sombrer dans la nuit. Et au moment où il le sut, il cessa de le savoir.
Martin Eden sombre dans la nuit, dans les profondeurs des océans. Jack London, lui, sombre dans la morphine, une surdose. Il y a toujours cette question, est-ce qu'il l'a fait exprès ?
Oui, en tout cas, il a semé le doute, donc avant même sa mort, dans ses écrits, dans ses correspondances, dans ses confidences à des amis. Bon, on ne saura jamais s'il s'est suicidé ou si c'est une mort par accident, par surdose. En tout cas, voilà, je crois aussi qu'il était profondément affecté par son enfance. Il avait un petit peu usé sa besace, une sorte de capital stress qu'on aurait, comme on a un capital soleil, ça j'y crois profondément. Il était usé par la vie, quelque part. Il y avait cette mélancolie qui l'emportait, même s'il pouvait aller plus loin. Et surtout, il a été détruit par l'incendie de sa maison, la maison du loup auparavant. En tout cas, ce que nous enseigne Jack London, c'est qu'il nous montre la voie. C'est important. Moi, je l'ai un petit peu suivi simplement parce que je l'ai lu très jeune, adolescent, quand j'étais hébergé en haute montagne. Mais j'invite justement les auditeurs à le relire, Martin Eden en particulier, parce que c'est magnifique, c'est toute beauté.
Alors, il aura laissé une cinquantaine d'ouvrages. Certains seront édités après sa mort, hein, auteur prolifique s'il en est. Par quel livre on commence l'œuvre de Jack London, Olivier?
Moi, je dirais que si on est très très jeune, L'appel de la forêt. Et deuxièmement, si on est moins jeune, Martin Eden, mais à relire à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, etc.
Merci Olivier
Weber. Merci à vous.
Je rappelle le titre de la biographie que vous signez aux éditions Paulsen, Jack London, L'appel du grand ailleurs. Et puis il y aura aussi une exposition à découvrir à Marseille, Jack London dans les mers du Sud. C'est à partir du 8 septembre prochain. Merci à vous Olivier Weber.
Merci beaucoup.
Merci pour ce merveilleux spectacle.
La routine.
Demain, nous prendrons le large une fois de plus. À 16h, nous irons rencontrer les cachalots avec le plongeur François Sarano. Et à 17h, nous embarquons sur un cargo porte-conteneurs. À demain donc pour de nouvelles aventures.